Jean qui grogne et Jean qui rit, par la comtesse de Ségur, quatrième cassette, première face, page 99. Chapitre 13, les habits neufs. Le lendemain, quand M. Abel vint déjeuner au café, Jean courut tout joyeux. « Monsieur, monsieur, savez-vous le bonheur qui nous arrive à Simon et à moi ?»«
Non, comment veux-tu que je le sache ?»«
Hier, dans l'après-midi, monsieur, il est venu un beau monsieur qui nous a demandé, Simon et moi. Il nous attendait chez le portier. On n'avait pas besoin de nous au café, c'est l'heure où il y a le moins de monde. Nous y sommes allés, le beau monsieur nous a dit qu'il venait nous prendre mesure pour nous faire des habits neufs. Simon a refusé.
Bah, pourquoi cela? Il devait accepter, dit M. Abel.
Mais monsieur, il ne voulait pas dépenser tant d'argent.
Mais puisqu'on les lui donnait.
Tiens, comment avez-vous deviné ça, monsieur? Ce monsieur nous dit qu'il avait ordre de nous habiller, qu'il était payé d'avance et je ne sais quoi encore. Simon hésite, le monsieur lui dit que ses ordres sont de faire les habits, sous peine de perdre son client. Simon demande qui c'est et pourquoi c'est. Le monsieur dit que c'est un grand artiste, un peintre, qui est très bon et très original, qui nous a vus un jour mal vêtus et qu'il veut que nous soyons bien habillés. Et il ajoute que si nous ne le laissons pas faire, nous lui faisons perdre son meilleur client. Simon a enfin consenti. Le monsieur a pris nos mesures et il nous apportera nos habits demain et nous serons comme des princes le jour du bal de monsieur Amédée. Il ne manquera qu'une chose, c'est la chaussure, la cravate et le linge. Quant au linge, Simon m'a dit que nous boutonnerions nos habits jusqu'en haut pour cacher la chemise et dissimuler la cravate. Ça sera très bien comme ça.
« Cet imbécile de tailleur, dit M. Abel. Comment n'a-t-il pas pensé au linge et aux bottines ?»«
Il ne faut pas injurier ce pauvre homme, monsieur. Ce n'est pas de sa faute. Il a fait comme on lui a commandé. »«
Tu as raison. C'est l'autre qui est un sot, un imbécile. »«
Oh, monsieur, un si bon monsieur, qui prend intérêt à nous sans nous connaître et qui fait une si grande charité avec tant de bonté et de grâce. »
Je te dis que c'est un animal. Quand on fait une bonne action, il ne faut pas la faire à demi. La jolie figure que vous ferez avec des habits élégants et des chaussures de porteur d'eau, une cravate de coton à carreaux et le chapeau, y a-t-on pensé?
Je ne crois pas, monsieur, mais on ne garde pas son chapeau dans une maison comme il faut où l'on danse. Nous irons sans chapeau, Simon et moi, c'est si près. Et puis, il fera nuit.
Et puis, dit Monsieur Abel, la rue Saint-Roch n'est déjà pas si éclairée.
Monsieur Abel déjeuna vite ce jour-là. Il dit à Jean de servir promptement qu'il était pressé. Jean fit de son mieux, Monsieur Abel aussi, de sorte qu'un quart d'heure après, il était parti. Simon et Jean voyaient Jeannot de moins en moins, mais ils savaient qu'il devait aller au bal de Monsieur Amédée. « Pauvre Jeannot, dit Jean, il sera mal habillé, tandis que nous, nous serons si beaux. »«
Oh bien, dit Simon, il s'amusera tout de même. Nous pourrons lui prêter mes vieux habits que tu avais à la soirée de M. Pontois. Ils sont très bien encore. »«
Et ils lui iront très bien, dit Jean, comme à moi, puisque nous sommes de la même taille. Si j'allais le lui dire, oui, va, mon bonhomme, et ne sois pas longtemps, il pourrait venir du monde encore. » Et il y en a déjà pas mal. Oh, dit Jean, je ne resterai que le temps de lui dire la chose et d'avoir un oui ou un non. Jean sortit et arriva en courant. En ouvrant la porte de l'épicerie, il entendit qu'on se disputait. Et il ne tarda pas à voir que c'était M. Pontois qui grondait M. Jeannot.
Je te dis que j'en suis sûr, disait M. Pontois. « Ma femme t'a vu prendre une poignée de dattes et de figues. Elle a vu que tu les mangeais. »«
Mais monsieur, dit Jeannot, je les ramassais pour les mettre en devanture. »
Menteur, voleur, s'écria Monsieur Pontoise. Et se jetant sur Jeannot, il lui tira une poignée de cheveux, lui donna des claques, des coups de pied, et l'envoya à l'autre bout de la chambre. C'est la 10e, la 100e fois que tu me voles, petit gredin. Que je t'y prenne une fois encore, et je te mets à la porte comme un voleur. Monsieur Pontoise s'en alla sans avoir aperçu Jean et laissa Jeannot qui pleurait et se désolait. Jean s'approcha de son cousin. Jeannot, lui dit-il affectueusement, prends courage, ne pleure pas. Je viens te proposer quelque chose qui te fera plaisir. Simon t'offre de te prêter pour le bal de M. Amédée, les habits que j'avais à votre soirée. Jeannot essuya ses larmes et prit un air moins malheureux.
Je veux bien, je n'avais rien à me mettre. Je te remercie bien et Simon aussi, mais toi-même, que mettras-tu?
Je mettrai autre chose, je ne suis pas embarrassé avec Simon.
T'es bien heureux d'être avec Simon. Tu es tranquille là-bas et toujours gai et content. C'est pas pareil pour moi. Je pleure plus souvent que je ne ris. Peu d'argent, beaucoup d'injures et puis du travail par-dessus la tête.
Oh, il ne faut pas croire que nous n'avons rien à faire au café, dit Jean. Je suis sur pied du matin au soir. Toi, tu as tes dimanches au moins.
Oh, des jolis dimanches. C'est à qui ne m'emmènera pas. Je m'ennuie. Et je pleure. Oh, ça fait un beau dimanche.
Eh bien, pourquoi ne viens-tu jamais nous voir? Simon et moi, nous sortons chacun notre tour le dimanche. Nous t'emmènerions.
Merci. Pour aller à l'église, à vêpres, au serment. Grand plaisir. Jolie distraction.
Ça fait du bien d'aller quelquefois prier le bon Dieu dans l'église, chez lui, dans sa maison.
J'aime mieux me promener.
Pauvre Jeannot, tu ne disais pas comme ça au pays.
Au pays, en Bretagne, j'étais un sot. Mes camarades m'ont formé à Paris.
Déformé, tu veux dire. Qui gagnes-tu? Tu n'en es pas plus heureux. Tu ne t'en amuses pas davantage et tu n'as pas la consolation de prier.
Comment veux-tu que je sois heureux, que je m'amuse avec des méchants maîtres comme les miens?
Méchants? Qu'est-ce que tu dis donc? Simon m'a dit qu'ils étaient bons et qu'ils traitaient très doucement leurs garçons.
Les autres, c'est possible. Mais toujours pas moi alors.
Jeannot, prends garde d'être ingrat.
Oh tiens Jean, tu m'ennuies avec tes sermons. C'est pour ça que je ne vais plus vous voir, Simon et toi. Envoie ou apporte-moi les habits que tu m'as promis et ne me fais pas de morale. Aussi bien, je suis mal ici et je crois que je n'y resterai pas.
Et où veux-tu aller? Que veux-tu faire? Jeannot, je t'en prie, ne fais rien de grave sans consulter Simon. Il est si bon, si sage.
Envoie-moi tes habits, je te demande pas autre chose.
Jean soupira et s'en alla lentement en répétant « Pauvre Jeannot ». Simon, auquel il raconta le soir sa conversation avec Jeannot et la scène dont il avait été témoin, alla lui-même porter les habits promis à Jeannot et causa longuement avec M. Pontoise. Quand il rentra, il était soucieux et au premier moment où ils se trouvèrent seuls au café, son frère et lui, il dit à Jean « Je ne suis pas content de Jeannot et M. Pontoise en est fort mécontent. Jeannot ne veut pas y rester et M. Pontoise ne veut pas le garder. C'est malheureux pour Jeannot, il aura de la peine à se replacer. M. Pontoise l'accuse de voler un tas de choses qui se mangent. Mais ce qui est pis, c'est que M. Pontoise est presque certain que lorsqu'il vend, il ne met pas dans la caisse tout l'argent qu'on lui donne. Ceci me chagrine car c'est le fait d'un voleur. Et comment puis-je le placer ailleurs avec un pareil soupçon? Pauvre Jeannot, dit Jean, mais Simon, si tu en parlais à M. Abel, Il est si bon, il te donnerait un bon conseil, j'en suis sûr.
Oui, tu as raison, dit Simon, cela pourrait être utile à Jeannot. Monsieur Abel connaît tant de monde, et je pense comme toi qu'il est de bons conseils.
Peu de temps après, le tailleur vint leur apporter leurs habits, auxquels il avait ajouté des chemises fines, des cravates blanches et en taffetas noir, des chaussettes, des gants. Il était accompagné d'un cordonnier qui apportait un paquet de brodequins de soirée à essayer et d'un chapelier qui apportait des chapeaux. Jean était dans une joie folle. Simon contenait la sienne, mais elle était aussi vive que celle de son frère. Tout allait parfaitement. On trouva des brodequins qui chaussaient admirablement sans gêner le pied, des chapeaux qui allaient on ne peut mieux et des gants qui se mettaient sans effort, car Simon et Jean ne voulurent pas avoir les mains serrées. Le tailleur avait poussé l'attention jusqu'à mettre des mouchoirs dans les poches des habits. Simon et Jean ne savaient comment exprimer leur reconnaissance. Ils chargèrent le tailleur des remerciements les plus tendres et les plus respectueux pour le bienfaiteur inconnu. Quand M. Abel arriva, Jean, qui l'attendait avec une grande impatience, lui servit son déjeuner.
« Oh, monsieur, dit Jean, si vous saviez comme ce monsieur peintre est bon, vous seriez bien fâché de ce que vous en disiez l'autre jour. Ce bon, cet excellent monsieur peintre a pensé à tout. Nous avons tout ce qu'il faut, Simon et moi, tout, jusqu'à des mouchoirs blancs et fins pour nous moucher. Chapeaux, chaussures, linge, gants, rien n'y manque, rien. N'est-il pas d'une bonté à faire pleurer ?
Oui, monsieur, c'est vrai ce que je vous dis.
Quand nous avons monté nos affaires dans notre chambre, nous nous sommes mis à genoux, Simon et moi, pour prier le bon Dieu de bénir cet excellent monsieur peintre, et nous avons pleuré tous deux dans les bras l'un de l'autre, pleuré de joie, de reconnaissance. Oh oui, le bon Dieu le bénira, monsieur. Ce qu'il a fait là, ça n'est pas une charité ordinaire. Non, non, il y a quelque chose dans cette bonne action que je ne peux pas définir, mais qui me va au cœur, qui me touche, qui m'attendrit, qui annonce un cœur tout d'or. Ah, que la femme et les enfants de cet excellent homme sont heureux. S'il est si bon, si attentif, si généreux pour deux pauvres garçons étrangers qu'il a à peine aperçus et qu'ils ne le connaissent seulement pas, que doit-il être pour sa famille, pour ses enfants ?
Jean couvrit son visage de ses mains. Monsieur Abel le regardait. Après un instant de silence, Jean continua.
Il n'y a qu'une chose qui nous peine, Simon et moi, c'est de ne pas pouvoir lui témoigner notre reconnaissance, notre vive affection. Cela fait vraiment de la peine, monsieur. C'est comme un poids pour le cœur.
Monsieur Abel ne mangeait pas. Il avait écouté avec un attendrissement visible l'élan passionné de la reconnaissance de Jean. Il ne l'avait pas quitté des yeux un instant. Il admirait cette jolie figure, embellie encore par l'expression d'enthousiasme qui éclairait son regard. Il était surpris du langage devenu presque éloquent de ce pauvre petit paysan qui, peu de mois auparavant, avait le langage commun de la campagne. Jean ne parlait plus, et M. Abel le regardait encore. Jean, de son côté, ne pensait plus ni au café, ni à son service. Dominé tout entier par sa reconnaissance, il restait immobile, les yeux humides, et toute son attitude exprimait un profond sentiment de gratitude et d'affection.
Tu es un bon garçon, tu as un bon cœur et tu sais reconnaître ce qu'on fait pour toi, Jean, dit enfin M. Abel en lui serrant fortement la main. « Et maintenant, mon enfant, apporte-moi mon café bien chaud. »
Jean alla chercher le café.
« Monsieur, dit-il en l'apportant, ne pourriez-vous pas savoir par ce tailleur le nom de notre généreux bienfaiteur ? Je serais si heureux de pouvoir le remercier. »
« Peut-être pourrais-je le savoir, mon ami, je m'en informerai. » À ce soir chez Monsieur Amédée. J'arriverai un peu tard, vers 10 heures, car j'ai affaire avant. Adieu, Jean.
ajouta-t-il avec un sourire particulièrement bienveillant.
« Adieu, monsieur, » dit Jean le suivant des yeux. « Je l'aime, » pensa-t-il, « je l'aime beaucoup. » La journée se passa lentement. L'impatience de Simon et de Jean surtout augmentait à mesure qu'approchait l'heure du bal. Monsieur Métis, leur patron, leur donna congé de bonne heure. Ils dînèrent à la hâte et grimpèrent leurs 5 étages, lestes et légers comme des écureuils. Puis ils se débarbouillèrent et se peignèrent avec soin. Puis commença la grande toilette. Linge, habits furent encore examinés, retournés, admirés. Jean embrassait toutes les pièces dont il se revêtait. Ils étaient convenus de ne se faire voir l'un à l'autre que lorsque la toilette serait complètement achevée. « As-tu fini ?» demanda Jean le premier. « Pas encore, » dit Simon. « Attends un instant, je passe mon habit. » À un signal convenu, les deux frères se retournèrent et poussèrent une exclamation joyeuse.
« Que tu es beau, Simon ! Tu as l'air d'un vrai monsieur. Et toi donc, un prince ne serait pas mieux. Comme tes cheveux sont lissés, Simon, et bien arrangés. Et toi, quelle jolie tournure tu as. Et comme tes pieds paraissent petits, et comme ta taille paraît élégante. Ce bon, excellent monsieur prince. Oh, si je le voyais, je crois que je ne pourrais pas m'empêcher de l'embrasser. Et moi, dit Simon, je lui serrais les mains à lui briser les os.
Oh, pour ça non, par exemple, dit Jean, je ne veux pas que tu lui brises les os. Ce serait une jolie manière de lui prouver notre reconnaissance.
Moi, c'est une manière de dire, tu penses bien, seulement pour exprimer combien je suis heureux et reconnaissant.
Dis donc, Simon, mademoiselle aimée va te trouver joliment beau.
« Oui, elle ne m'a jamais vu bien habillé. Tout juste, ça me chiffonnait de paraître à son bal en habit étriqué et usé. »«
Et grâce à notre bienfaiteur, dit Jean, nous allons être superbes. »«
Oui, nous ferons l'effet de 2 gros bourgeois avec nos gants et nos chapeaux. »«
Et nos brodequins, ajouta Jean, et nos cravates. »«
Et nos chemises fines, dit Simon, nos mouchoirs. »
Dis donc, Simon, il faudra nous moucher souvent.
Oui, j'y ai déjà pensé. Mais au lieu de nous moucher, ce qui salirait nos mouchoirs, il faudra seulement les tirer souvent de nos poches et nous essuyer le front. Je l'ai vu faire à Monsieur Abel l'autre soir chez Monsieur Pontois.
Ah, comment fait-on? Tu me feras voir.
Oui, je te préviendrai et tu me regarderas faire.
« Tu choisiras le moment, dit Jean, où mademoiselle aimée te regardera. »
Chapitre 14. L'enlèvement des Sabines. Il était temps de partir. 8h30 venait de sonner. Simon et Jean eurent soin de traverser le café pour se faire voir avec leurs beaux habits neufs. Quand ils parurent, la dame du comptoir fit une exclamation de surprise et les garçons de café entourèrent les deux frères en les félicitant.
« Eh bien, dit le premier garçon, excusez un peu, on ne se gêne pas, habillés comme des princes. »«
Et rien n'y manque, ma foi, dit un autre garçon, de la tête aux pieds, tout est neuf, tout est du premier grand genre. »«
Et regarde donc la coupe des habits, des pantalons. » Des gilets, on dirait d'Alfred, le tailleur de l'empereur.
Et le linge, dit un autre, vois donc la finesse de la toile, une vraie chemise de tête couronnée.
Jean tira son mouchoir d'un air triomphant.
Et le mouchoir, s'écria le premier garçon, la plus fine toile.
« Eh bien, vous n'êtes pas gênés, mes amis, de vous faire habiller par de pareils fournisseurs. »«
Et combien que ça vous coûte, tout ça ?
Une année de salaire, au moins. »
Simon dit, « Bien moins que ça. Rien du tout. »«
Comment rien ? Pas possible, tu plaisantes. »«
Non, c'est vrai, dit Jean.
C'est un excellent monsieur peintre qui nous a tout donné.
Oh, ha, ha, dit l'autre garçon, farceur, va. Les peintres sont des artistes, et les artistes ne sont pas des millionnaires.
Ils sont mieux que ça, dit Simon. Ils sont les amis de ceux qui souffrent.
Ça n'est pas ça qui donne de l'argent, camarade, dit le garçon. Et il faut en avoir beaucoup, beaucoup, pour des vêtements comme des vôtres.
Notre monsieur peintre est riche, nous a dit le tailleur, répondit Jean.
Alors, c'est un peintre célèbre.
Je n'en sais rien, dit Jean, on n'a pas voulu nous dire son nom.
Mais ce que nous savons, c'est qu'il est pour nous un bienfaiteur, un ami, un ange du bon Dieu.
Ah, c'est bien ça, dit Jean, dit le garçon. C'est bon d'être reconnaissant. Il y a tant d'ingrats de par le monde.
Ah, répondit Jean, ça n'est pas Simon et moi qui le serons jamais. Tant que nous vivrons, nous prierons pour ce monsieur peintre et nous l'aimerons.
Avec tout ça, dit Simon, il faut partir, Jean. Puisque mes monsieur Métis a eu la bonté de nous donner congé, ce serait bête de ne pas en profiter. Au revoir, camarade, à demain.
Tous les garçons, en riant et en saluant profondément, dirent
« Au revoir, mes seigneurs, que vos altesses daignent s'amuser, daignent danser, daignent manger, daignent boire. »
« Soyez tranquilles, camarades, dit Simon, nous serons bons princes et nous ne serons les derniers pour rien. » Simon et Jean sortirent pleins de joie.
D'après l'effet produit au café, dit Jean, juge de celui que nous produirons chez Monsieur Amédée. Mademoiselle aimée, va-t-elle te regarder? Va-t-elle t'admirer?
Si elle me regarde, je la regarderai bien aussi, dit Simon. Elle n'est pas désagréable, tant s'en faut.
Ils arrivèrent et firent leur entrée avec tout le succès désiré. Il y avait déjà beaucoup de monde. Le petit commerce était arrivé, les épiciers, les merciers, les bottiers, etc. On attendait le haut commerce et le faubourg Saint-Germain, toujours en retard. Chacun se retourna pour voir les deux frères qu'un chuchotement général du côté des demoiselles signala à l'attention des messieurs. Simon et Jean saluèrent monsieur et madame Amédée, puis ils s'avancèrent vers le groupe des demoiselles qui regardaient, souriaient, minaudaient, témoignant ainsi leur admiration pour leur futur danseur et l'espoir d'une invitation. Simon salua et resalua particulièrement mademoiselle aimée, qui fit révérence sur révérence, qui se détacha du groupe et s'avança vers Simon et Jean.
Vous arrivez bien à propos, monsieur Simon. On va commencer à danser. Les messieurs vont faire leurs invitations.
« Alors, mademoiselle, dit Simon, voulez-vous danser avec moi la première contredanse ?»«
Très volontiers, monsieur. Et monsieur Jean va danser avec ma sœur Yvonne. »«
Très volontiers, mademoiselle, dit Jean. » Il courut à Yvonne qui accepta avec plaisir un danseur si bien habillé. Toutes les demoiselles envièrent le bonheur des deux sœurs.
« Aimée et Yvonne ont toujours de la chance, dit une grosse laide fille rousse. » qui dansait peu en général, et qui avait une robe en crêpe rose fanée sur un jupon en percale blanc plus court que la robe. « C'est qu'elles sont les filles de la maison, » dit mademoiselle Clorinde. « Robe de mousseline blanche, corsage en pointe, bouquet piqué en bas de la pointe, qui la gênait pour s'asseoir. C'est par politesse qu'on les invite. C'est plutôt parce qu'elles sont bonnes et aimables, » dit une troisième petite blonde de 10 ans.
Les salons se remplissaient. Toutes les industries y étaient représentées. Fumistes, bouchers, serruriers, épiciers, fleurs artificielles, papetiers, modistes, lingères, cordonniers, etc. Les toilettes étaient les unes simples et jolies, les autres recherchées, fanées, prétentieuses. Des turbans, des bouquets de plumes, de fleurs, des étoffes fanées, riches, des couleurs éclatantes, tranchaient sur des visages jeunes, frais ou vieux, ridés et plus fanés que leurs robes et leurs coiffures. La musique se faisait entendre. Les danses commencèrent. Dans les intervalles des contredanses, on courait au rafraîchissement.
Jean et les plus jeunes danseurs virent avec une vive satisfaction l'abondance des gâteaux, des sirops, des fruits glacés. Jean avait bien dit. C'était, croyait-il, genre haut commerce, grand genre. La musique se composait d'un violon, d'une clarinette et d'un piano. Monsieur Abel arriva à 10 heures comme il l'avait annoncé. Simon le présenta à monsieur et madame Amédée et aux jeunes personnes. Patronné par un aussi élégant danseur, monsieur Abel eut le plus grand succès. Ses habits étaient aussi beaux que ceux de Simon. Faits sur le même modèle, il semblait qu'ils fussent de la même fabrique. Simon recommanda à monsieur Abel aux soins tout particuliers de mademoiselle Aimée et de mademoiselle Yvonne. Abel dansa avec l'une et avec l'autre, puis encore avec mademoiselle Aimée, à laquelle il fit un éloge éloquent et touchant de son ami Simon. Mademoiselle Aimée trouva que monsieur Abel était un homme charmant.
Et puis si bien habillé, tout semblable à Simon, ce qui indique, dit-elle à ses amis, que ce sont des hommes d'ordre et de bon goût.
Monsieur Abel causa beaucoup avec monsieur et madame Amédée qui l'écoutaient avec un intérêt visible. Le bal languissait, on mangeait plus qu'on ne dansait. Monsieur Abel communiqua cette observation aux danseurs et leur proposa d'animer la soirée. Mais comment ? Personne ne trouvait le moyen. « Je l'ai, moi, messieurs, » dit monsieur Abel, « mais il faut de l'ensemble pour que ce soit vraiment amusant. »« Qu'est-ce donc ?» dirent les danseurs. « D'abord, il faut nous réunir tous les danseurs. Personne autre ne doit être dans le secret. »«
Et nous ? Et nous ?»
s'écrièrent les demoiselles.
« Vous, moins que les autres, mesdemoiselles, » dit en riant monsieur Abel, « c'est un divertissement d'hommes. »
Monsieur Abel passa dans la salle à côté, suivi de plusieurs jeunes gens.
« Vous promettez, messieurs, de garder le silence jusqu'après l'exécution de mon divertissement. »«
Nous le promettons, nous le jurons, »
répondirent les jeunes gens en étendant leurs mains.
« C'est bon, » dit monsieur Abel. Nous allons exécuter l'enlèvement des Sabines, figure très à la mode et du plus grand genre. Vous choisissez votre danseuse. La contredanse commence, vous faites comme si de rien n'était. Au dernier chassé-croisé, je fais hop ! Chacun de nous saisit immédiatement une danseuse et lui fait faire de gré ou de force un tour de valse.
Un punch, P-U-N-C-H, c'est une espèce de boisson à base de rhum et de sucre.
Mais si la demoiselle ne sait pas valser, demanda un danseur.
Tant pis pour le valseur, dit monsieur Abel. Il faut qu'il la fasse tourner tant bien que mal jusqu'à ce qu'il lui ait fait faire le tour du salon, comme un papillon. Rentrons et soyons discrets.
« Rappelez-vous bien que quoi qu'il arrive, qu'on crie, qu'on résiste, il faut avoir fait en valsant un tour de salon pour avoir droit au punch et que le dernier arrivé paye le punch. »
On rentra au salon. Chacun des jeunes gens espérait prendre part au punch. Aucun ne croyait avoir à le payer. Ils firent leurs invitations. Il y avait plus de danseurs que de...